Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Ah, ça va me coûter combien ?
Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros.
Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement.
Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie.
Nous sommes en guerre.
Il n'y a pas un Français, je pense qu'il n'a pas été un bon président de la République.
Je suis pas informé de ça.
Le plan 2030, je le dis avec presque un regard émerveillé, mais la façon dont nous sommes en train de projeter notre pays dans 10 ans, c'est fabuleux.
Nous sommes en guerre.
Nobody will be safe if not everybody is vaccinated.
Nobody will be safe unless everybody will be vaccinated. C'est le grand prophète Klaus Schwab qui s'exprime à Davos. Personne ne sera sauvé si le monde entier n'est pas vacciné. Qu'on se le dise, c'est tonton Schwab qui le dit à Davos. Et Davos, on va en parler longuement avec Olivier Piacentini. On va aussi parler justement de ce monde post-national où notre président bien-aimé Emmanuel Macron confie notre santé à l'OMS. C'est ça qu'il faut, voilà. L'OMS doit diriger, doit gérer la santé du monde. Bien ou mal, eh bien écoutez, on va en discuter, on va parler de beaucoup d'autres choses encore, des déclarations de tel ou de tel, vous allez voir, des perles, des huées, des bravos, vous savez, comme d'habitude. Et puis nous allons recevoir Bernard Bourdin pour parler de quelque chose qui reste essentiel et qu'on a peut-être oublié, la nation. C'est quoi la nation ? Est-ce une ressource d'avenir ? Eh bien, on en parle tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Il existe une montagne qui s'appelle la montagne magique. Oui, Thomas Mann, le grand écrivain, l'avait célébré. Et cette montagne magique, c'est Davos. Oui, Davos. Davos, ton univers impitoyable. Non, c'est là que se réunissent les dirigeants du monde entier, le World Economic Forum, fondé il y a plus de 50 ans par Klaus Schwab, qui dirige toujours ce Davos. Alors Davos, c'est la feuille de température, paraît-il, de la planète, pour le meilleur ou pour le moins bon. Que s'agit-il ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? De quoi Davos est-il le nom ? On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls dans leur château.
Roméo et Juliette, alors je ne sais pas s'ils sont seuls les rois du monde, mais en tout cas ils se réunissent, ils se sont réunis après 2 ans de Covid en télétravail et en téléconférence, et puis maintenant, ils sont là. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment à Davos ? On va en parler avec Olivier Piacentini. Bonjour Olivier.
Bonjour André, bonjour à tous.
Auteur de nombreux livres sur les dérives et dangers de la mondialisation, et un livre, on en reparlera avec vous en juin, La chute finale. L'Occident survivra-t-il ? Vraie question, effectivement. On en reparle d'ici 3 semaines ou un mois. Mais alors, Olivier Piacentini, avant, on va écouter ce que disait Klaus Schwab, hier d'ailleurs, en inaugurant, en présentant, puisque ça a commencé hier, le World Economic Forum, le Forum économique mondial de Davos. Écoutez.
The future is not just happening. The future is built by us. By a powerful community, as you here in this room. And second, that we collaborate. And this is the reason why you find many opportunities here during the meeting to engage into very action and impact-oriented initiatives.
Voilà, le futur est ici, construit par nous, cette communauté puissante réunie dans cette salle. Il faut que l'on coopère vers des initiatives communes avec un objectif de résultat. Ça mange pas de pain, un alignement de clichés sympathiques, mais il faut bien inaugurer. Olivier Piacentini, en fait, Davos, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est quoi depuis le début ? Et bon, on va pas raconter toute l'histoire de Davos, on a beaucoup d'autres choses à dire, mais en gros, c'est vraiment le miroir qui réfléchit de ce qui se passe au niveau des dirigeants mondiaux, aussi bien économiques que politiques.
Davos, c'est la vitrine, non pas de la mondialisation, parce que la mondialisation, on n'y peut rien, c'est un fait, c'est les moyens de communication et les moyens de transport qui font que, automatiquement, il y a un rapprochement entre bien les sûr. Peuples et un rapprochement sur la planète. Mais c'est la vitrine du mondialisme. Le mondialisme, c'est une forme d'idéologie et une forme, si vous voulez, de gouvernance qui s'insinue peu à peu dans nos vies, à l'échelle mondiale, et qui a des idées bien précises. C'est d'établir une gouvernance mondiale par le biais d'une coopération de plus en plus forcée sur les peuples.
Ça a toujours été l'idéologie de Davos, depuis le début. Ça.
Très clairement, très clairement. Et on va parler tout à l'heure des thématiques qui vont être abordées au cours de ce forum, ou qui ont déjà été abordées, puisque le forum a déjà commencé, qu'il y a déjà eu des conférences. Et on va bien voir que, de façon même pas civiline, mais tout à fait explicite, on comprend bien qu'il y a une volonté d'imposer un certain sens à la mondialisation et un certain pouvoir. Parce que à travers Davos, il faut bien le comprendre. Davos, il y a 1000 membres au forum de Davos. Ce sont des sociétés qui font plus de 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour en faire partie.
Ah
et
oui.
C'est cet ensemble-là.
L'ensemble des sociétés, c'est ça.
C'est ça, l'ensemble des sociétés qui veulent y adhérer. Mais il y en a 1000.
Bon.
Et qui payent à peu près 48 500 euros pour participer au forum de Davos.
Pas mal comme ticket d'entrée. Ouais.
Voilà. Ce qui fait que le chiffre d'affaires du forum de Davos, ne fût-ce que sur les adhésions, c'est 48 millions par an, plus certainement du sponsoring, etc. Bon. Donc, on voit bien que ce pilotage est initié et impulsé, non pas par des chefs d'État, de gouvernement ou des institutions internationales, mais par le monde de l'entreprise, pas n'importe quelle entreprise, des multinationales, puisqu'il y a une sélection entre un certain niveau de chiffre d'affaires et d'autres.
D'accord.
Donc, ce n'est pas l'avènement de l'économie de l'entreprise, c'est l'avènement, je dirais, d'un oligopole d'entreprises qui ont une très grande puissance à l'échelle mondiale et qui veulent faire avancer les choses dans le sens de leur intérêt.
Donc un agenda qui est là depuis longtemps, d'ailleurs.
Depuis très longtemps, ça a été initié par Klaus Schwab, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les années 70, mais observez bien, pendant 20-25 ans, vous vous rappelez certainement, André, vous qui suivez tout ça depuis un certain temps, ce forum n'avait pas l'aura qu'il a commencé à acquérir, à quel moment ? Au milieu des années 90.
Ah, c'est là que ça a commencé à...
Et vous voyez bien que c'est dans les médias, l'impact médiatique très important a commencé au milieu des années 90, et ce n'est pas anodin, parce que le milieu des années 90, c'est juste après la chute du mur de Berlin et l'écroulement, je dirais, du bloc de l'Est, qui permet à ce mondialisme de se déployer complètement à l'échelle mondiale. À l'origine, le forum de Davos avait pour objectif de lutter contre le communisme. Qui emprisonnait, c'est la vérité, le mot est juste, la moitié à peu près des habitants de la planète. Alors aujourd'hui, il emprisonne toujours, entre guillemets, au moins en Chine. Sauf que la Chine a ménagé certains aspects de son économie pour rentrer justement dans ce projet mondialiste.
Elle fait partie de l'Organisation mondiale du commerce, etc. Elle vient à Davos, la Chine, ou pas ?
Alors cette année, non.
Cette année, non.
Et justement, cette année, on ressent...
Alors justement, oui, cette année, vous dites qu'il y a moins de représentants du monde.
Il y a une très nette désaffection. C'est-à-dire qu'en 2019, pour reprendre, je dirais, une année où ça fonctionnait normalement, je dirais, il y avait plus de 3000 invités au forum de Davos et des galeries de chefs d'État. Il y avait Macron qui était venu. Bon. Là, il y a très peu de chefs d'État. Il y a Olaf Scholz. Il y a l'émir du Qatar, il y a Zelensky évidemment, bon là vous comprenez pourquoi, c'est en visioconférence, et il y a Madame Lagarde, mais qui elle-même fait partie du conseil d'administration du forum de Davos, donc en tant que présidente de la BCE, mais qui était déjà avant, donc il n'y a rien d'étonnant. Au niveau des invités, il y en a plus 3000, mais 2200.
Ah oui, ça a baissé, oui.
Ça a baissé, alors on pourrait toujours dire que c'est lié à l'après-crise, tout ce que vous voulez, mais non, moi je pense que c'est vraiment une forme de désaffection, parce qu'il y a véritablement aujourd'hui une forme de rejet d'une certaine mondialisation ou de ce mondialisme qui apparaît de plus en plus fort au niveau des populations, au niveau des opinions publiques et, j'ai relevé, on va peut-être en
alors,
parler après.
Alors succinctement, dites-nous, justement, en fait, il y a une inquiétude de savoir qu'est-ce qui se passe et justement l'intitulé en une phrase, Olivier Pensantini, des conférences montre un peu sur quoi reposent les inquiétudes aujourd'hui.
Voilà. Alors on a tendance beaucoup en France à dire « Ah ben ça y est, ils ont gagné, c'est fini, c'est râpé, Macron a été réélu, Trump a été éjecté, etc. » Oui, certes, il y a eu vraiment, je dirais politiquement, certains succès par rapport à une vague populiste qui était plus forte il y a 3 ans. Mais les inquiétudes sont là, parce que le forum de Davos, c'est avant tout des conférences.
C'est ça, absolument.
Alors j'ai cité 3 conférences que j'ai trouvées, qui sont sur le site, qui sont en anglais, je les ai traduites. Il y a une conférence qui s'appelle « Vers la démondialisation ».
Vers la démondialisation. Voilà. Hein, oui.
Et dans l'explication, il y a entre autres cette phrase...
Avec un point d'interrogation, bien sûr.
Avec un point d'interrogation. Oui. Mais dans l'explication, vous avez, à l'heure où l'hyperconnectivité dans le monde virtuel, va-t-on vers la démondialisation dans le monde physique ? Avec une pointe d'inquiétude.
Intéressant.
Vous avez une autre conférence qui s'appelle « Répondre à la crise de confiance sociale et politique » et qui est commentée de la façon suivante. Les dirigeants mondiaux sont confrontés à une crise de confiance, les dirigeants des gouvernements, des entreprises et de la société civile perdant la confiance des citoyens, des consommateurs et des communautés. Vous voyez, les mots sont bien choisis et nous donnent des tendances qu'on retrouve dans l'actualité en permanence. Quelles actions les dirigeants doivent-ils entreprendre pour reprendre le dessus ?
Bien sûr. Oui, c'est-à-dire, on gouvernait, on avait le dessus, on est en train de le perdre, ben, quoi, quelque part.
Ils expliquent qu'en fait, c'est très clair à travers ces termes-là, veulent s'imposer sur des opinions publiques de plus en plus réticentes. Et ils disent reprendre le dessus en plaçant les personnes et la planète au-dessus de tout. Les personnes et la planète en dessus de tout. Les nations et les peuples, ça n'existe pas. Dans ce mondialisme-là, ça va de la personne à la planète. Les peuples, ça n'existe pas. Ouais. Et à mon avis...
Les mots sont très importants. Sont très choisis.
De façon sibylline, ça veut dire que c'est les peuples qui bloquent le système.
Qu'il faut trouver le moyen non pas de s'en débarrasser, mais de les remarginaliser
reprendre le dessus sur eux.
C'est ça.
Troisième conférence, entre autres, que j'ai trouvée assez exemplaire.
Oui.
Le futur de la coopération mondiale entamé. L'existence de défis mondiaux partagés est plus évidente que jamais, mais les institutions actuelles... pour la coopération mondiale semble de plus en plus fragile. Le multilatéralisme mondial est-il toujours viable ou l'avenir sera-t-il plus susceptible d'être façonné par des blocs, des alliances et des coalitions concurrentes ?
Alors, arrêtons-nous à ça. C'est vrai, le fameux multilatéralisme prôné par Obama, notamment, et Biden ensuite, etc. Et on voit bien la formation des blocs, on voit bien la dédollarisation du monde, l'histoire de ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, et effectivement, les gouffres qui sont en train de se bloquer, qui ne sont pas des gouffres militaires, mais d'abord des gouffres économiques. On le voit très très bien.
Absolument.
Olivier Bessantini. Alors, est-ce que ça veut dire que quand même, c'est intéressant, parce que Davos pose les bonnes questions, quand même.
La question, elle est très claire. On retombe là sur une problématique qui ressemble. Fin de l'histoire de Fukuyama, le fameux livre de Fukuyama des années 90 qui annonçait, justement, qui était la théorie qui a amené...
La mondialisation heureuse, le monde serait libéral, le marché a triomphé.
Ou le livre d'Huntington de 1996, Le choc des civilisations. Et donc aujourd'hui, alors, ce fameux hiatus entre ces deux, on le connaît, nous. Mais le fait que Davos en parle de façon aussi explicite, c'est quand même nouveau. Et ça montre bien que au sein même de cette super élite, il y a des inquiétudes. Ils ont passé certains caps, ils ont réussi à remettre le bateau qui tanguait un peu à flot avec l'éviction de Donald Trump et par contre la réélection de Macron. Et aussi, un troisième événement, c'est en Italie, la nomination de Mario Draghi à la présidence du Conseil, avec une chambre qui était issue d'élections qui avaient donné la victoire au bloc populiste Mouvement 5 étoiles et Lega Nord. Mais avec ce système politique italien particulièrement farfelu, on va dire, on arrive aujourd'hui à Mario Draghi. Donc, ils ont le sentiment d'avoir repris le dessus sur certains pays en termes politiques, mais ils sentent bien que les peuples sont de plus en plus réticents et les élections en France de cette année, même s'ils se sont traduites par la réélection de Macron, indiquent que quand même il y a une poussée d'un bloc populiste sans précédent.
Oui, à gauche comme ailleurs.
À gauche et à droite d'ailleurs, effectivement.
À gauche et à droite, effectivement. À gauche et à droite. Mais au-delà de ça, au-delà des élections effectivement politiques, est-ce que Davos est quand même... parce que vous dites ça, en même temps, on a l'impression qu'on est entré, et ça au-delà de Fukuyama et au-delà de Huntington, dans un monde post-national. C'est-à-dire, on a l'impression quand même que la mondialisation, effectivement, qui existe, on ne va pas la nier, après, heureuse ou malheureuse, c'est là où le problème se pose, mais on a l'impression que, regardez, que ce soit OMS, même Union Européenne, etc., etc., c'est, on a l'impression que notre sort aujourd'hui est entre les mains, je ne dirais pas de techniciens, etc., mais entre les mains d'institutions qui transcendent effectivement les nations, les frontières, etc. Quid de cela ?
Mais c'est très clair qu'il y a un pouvoir de plus en plus grand à la fois des entreprises, parce qu'à Davos, vous le voyez bien, les chefs d'État sont invités par les membres du conseil d'administration qui sont pour l'essentiel des chefs d'entreprise et
Les cotisants sont les chefs d'entreprise.
Les chefs d'entreprise, c'est eux qui entretiennent, voilà. Et vous avez des cercles concentriques. Le noyau dur, c'est les chefs d'entreprise. Ensuite, vous avez les dirigeants d'institutions internationales comme l'ONU, l'OMS, l'OCDE, etc. Et le troisième cercle, c'est les chefs d'État qui sont invités et qui viennent un petit peu exprimer leur opinion et puis prendre le pouls et puis voir, en fait, prendre un petit peu une espèce de feuille de route. Pour les années à venir, mais on va le sentir, puisqu'on va parler peut-être tout à l'heure de Macron et de l'OMS, va bien voir qu'il y a véritablement un lien que l'on peut faire entre ce qui se passe à Davos et ce que certains dirigeants comme Macron, qui sont vraiment impliqués dans ce mondialisme, prennent les choses.
Eh bien, on va en parler tout de suite après cette petite pause, toujours avec Olivier Piacentini, et vous allez voir, Macron et l'OMS, c'est intéressant, en tout cas ce que ça traduit.
Ici Sud Radio.
Allez.
Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
L'Organisation mondiale de la santé, hein, on la connaît beaucoup mieux, effectivement, depuis le Covid, depuis les annonces de fin décembre 2019 et surtout début 2020, où tout a commencé pour nous et pour le monde. Alors, cette Organisation mondiale de la santé, on parlait de Davos, on parlait des multinationales, on parlait surtout du monde post-national et de l'ONU, tout ça, qui sont effectivement, et pour le meilleur comme peut-être pour le moins bon, mais enfin, des instruments nécessaires d'une gouvernance mondiale. Après tout, pourquoi pas? Mais comment et à quel prix? Alors, justement, Emmanuel Macron s'est exprimé à la veille, puisque vous savez que a commencé aussi, en même temps que Davos, c'est-à-dire décidément la Suisse est vraiment la structure d'accueil du monde en ce moment. Il y a donc Davos, on en a parlé avec Olivier Piacentini, et puis il y a l'Assemblée mondiale de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, Emmanuel Macron s'est exprimé, écoutez-le.
De nombreuses propositions sont sur la table qui convergent notamment sur l'importance de renforcer l'OMS dans son rôle de coordination scientifique, d'instance normative, dans une approche une seule santé et sur la nécessité de lui donner davantage de moyens pour agir.
Voilà, une seule santé, des moyens, davantage de moyens pour l'Organisation mondiale de la santé et pratiquement, c'est ce qu'on dit, et pas seulement Emmanuel Macron mais d'autres, que l'OMS soit chargée de la gestion mondiale de la santé. Pas seulement pour le Covid-19, mais pour les éventuels, espérons pas, mais des pandémies ou des épidémies à venir, etc., etc. C'est-à-dire, déléguons la santé à, effectivement, à l'OMS. Qu'est-ce que ça veut dire? On en parle tout de suite.
Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver les prisonniers.
Oui, mais ce n'est plus le travail, cher Henri Salvador, qui est la santé. Non, 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 non. Ce sont les multinationales. Ce sont les organisations mondiales. C'est ça, la santé. Vous avez entendu ce qu'a dit Emmanuel Macron, effectivement. Et on se dit, mais alors, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, je veux dire? Quand on entend l'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et nous permettre d'avoir une réponse coordonnée. Sauf que, sur le Covid, on peut rappeler ça, Olivier Piacentini, vous êtes toujours avec nous, vous êtes spécialiste de la mondialisation et du mondialisme, effectivement. On peut se poser des questions. Quand on sait le silence au début de l'OMS, quand même, qui a duré 2 mois, je rappelle, hein, début 2020, je rappelle aussi quand même que parmi le top 20 des contributeurs en millions de dollars, il y a, en second après l'Allemagne et avant les États-Unis d'Amérique, il y a la fondation Bill et Melinda Gates qui a donné 751 millions annuels. Il y a l'Alliance Gavi, fondée par, effectivement, Bill et Melinda Gates, et tout ça quand même. Et puis alors il y a bon, les États, le Canada, la Grande-Bretagne, la Commission européenne, le Rotary, etc., etc. Tout ça, c'est très très bien. la France qui vient avec quand même 141 millions, la France, etc. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, après tout, on pourrait se penser une bonne chose, Olivier Piercy, de confier la santé, effectivement la gestion, disons, de la santé, à un organisme international comme l'OMS, qui pourrait comme ça coordonner. Au départ, sur le plan, Macron a raison. Enfin, on pourrait se dire, il a peut-être raison, c'est une bonne chose ou pas?
Mais tel que c'est présenté, à mon avis, non, et pour plusieurs raisons. Moi, que l'OMS donne des recommandations, essaye de pousser les pays riches à aider les pays pauvres dans le cas de pandémie, parce qu'ils ont besoin de soutien, etc. Essaye d'apporter un soutien à la fois logistique, en termes de matériel, à des pays plus pauvres, bien sûr. L'OMS, je ne dis pas que l'OMS n'a aucune utilité.
Non, bien sûr que
c'est
pas
évident. Mais là, on a le sentiment que nous allons confier notre santé à l'OMS. Donc, nous n'aurons plus de souveraineté en matière sanitaire. C'est nous ça. Allons devoir...
Il y a une perte de souveraineté.
Voilà, nous aligner tous nos pays occidentaux, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, comme des petits pois, devant les directives de l'OMS. Or, vous l'avez rappelé, André, l'OMS s'est distinguée au début de la pandémie par... des atermoiements très coupables. Alors là encore, on va me dire, vous dites des choses, comment pouvez-vous les prouver? Mais enfin, ce monsieur Ghebreyesus, qui est le président de l'OMS depuis plusieurs années, qui est éthiopien, a été élu avec le soutien de la Chine. Ça lui a été grandement reproché. Et ouais. Il a été élu avec le soutien de la Chine. Pourquoi? Parce que l'Éthiopie est le principal pôle d'investissement chinois en Afrique dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Et aujourd'hui, c'est les Chinois qui délocalisent un certain nombre d'usines. En particulier dans ce pays, les Chinois ont également racheté de très nombreux millions d'hectares de terre en Éthiopie parce qu'ils veulent garantir leur souveraineté alimentaire. Eux défendent toujours leur souveraineté.
Bien sûr.
Et on ne peut pas manquer de voir quand même que... entre cette influence chinoise sur l'OMS, la Chine ayant métastasé beaucoup d'institutions internationales, dont l'OMS, mais également l'OMC, également la Commission aux affaires industrielles ou aux télécommunications de l'ONU, eh bien, on ne peut pas manquer d'y voir une influence pour essayer, je dirais, d'éviter de prendre de plein fouet les critiques et
les sanctions.
On
s'est demandé si le silence au départ de l'OMS n'est pas dû au fait que Wuhan, les compagnies, le laboratoire, etc.
Est-ce que vous pouvez trouver une autre explication qui soit meilleure que celle-là? Moi, personnellement, je n'en vois pas. Je ne vois pas d'autre explication à ce silence et à ces atermoiements que cela. Et donc, pendant 2 mois, l'épidémie, est restée en catimini en Chine, en tout cas l'information, parce que... ça a permis justement de la répandre à travers le monde. Et puis ensuite, moi, il y a une deuxième question que je me pose par rapport à ce problème de cette pandémie en Chine. Vous voyez, maintenant, cette épidémie, ça fait 2 ans. Qu'ont fait les institutions internationales pour réclamer des comptes à la Chine au niveau des enquêtes, au niveau éventuellement même des réparations, parce que la Chine a coûté énormément cher en termes de vie et en termes, de coûts économiques à l'ensemble de la planète. Et le problème du Covid est quand même de sa responsabilité, quelle que soit l'origine de ce Covid. Parce qu'on nous a dit... probablement venu d'un marché à Wuhan, etc. C'est lié au retard sanitaire en matière d'hygiène alimentaire de la Chine qu'elle aurait dû combler dans le cadre du cahier des charges qui lui était imposé lors de son adhésion à l'OMS en 2001. Elle ne l'a pas fait, mais personne ne lui a rappelé de le faire.
Alors justement, au-delà de responsabilités de la Chine, effectivement, vous vous dites, Olivier Piacentini, que le problème, c'est que c'est préoccupant, ça pose problème de confier la gestion de sa santé, de la santé d'un pays ou de l'Europe, etc., à une organisation quelque valeureuse qu'elle soit.
Mais bien sûr, puisque on court-circuite complètement la souveraineté des nations et la démocratie. Parce qu'au niveau de la coopération internationale, quid de la démocratie? S'il s'agit d'une coopération avec des chefs d'État qui viennent avec leur feuille de route et qui essaient de se mettre d'accord, très bien, là on est d'accord, on n'est pas pour les guerres, on n'est pas pour les épidémies, on est pour que les problèmes se résolvent. Mais là, c'est une institution qui donne sa feuille de route et qui l'impose à tout le monde. Donc les peuples n'ont plus leur mot à dire. Et cette critique peut être parfaitement, applicable au forum de Davos et à tout ce qu'on a dit auparavant sur le mondialisme actuel. Lorsque le livre de Klaus Schwab sur le Grand Reset est sorti, il s'était défendu des critiques en disant « Mais non, mais nous, on est pour promouvoir la démocratie. Mais comment promouvoir la démocratie à une échelle mondiale quand ce sont des entreprises qui donnent le là ?» Oui, donne des directives.
Ce qui est intéressant, c'est la démocratie comme je le veux, moi.
C'est la démocratie.
C'est moi qui vous dis ce qui est la démocratie ou pas la démocratie.
C'est la démocratie, si les dirigeants qui nous sont affidés reprennent le dessus, comme ils l'ont dit, lors de la thématique d'une de leurs conférences.
Donc, extraordinaire.
On est dans la post-démocratie et la post-nation.
Ouais, et c'est un vrai problème. Et ça rappelle la formidable phrase du dramaturge allemand Bertolt Brecht. Il disait qu'il y avait dans un pays où la population maugrait et n'était pas contente et protestait contre le gouvernement. Et à la fin, le gouvernement excédé décida de changer de peuple. Voilà. Dissolvons le peuple.
Ben voilà.
Merci Olivier Piacentini.
Merci, merci André. Au revoir à tous.
Et je rappelle votre dernier livre, Le Mirage mondialiste, qui a été paru en 2020. Et puis votre prochain livre pour lequel nous recevrons une prochaine fois La Chute finale, L'Occident survivra-t-il ?
Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Alors je ne sais pas si rodéo c'est le paradis comme chante Zazie, effectivement le rodéo, vous savez, c'est les rodéos, c'est bien, mais en même temps, du point de vue quand ça se passe dans les villes, quand ça se passe dans les rues de la ville, et quand ça se passe, comme on sait, avec les dégâts que l'on fait, eh bien écoutez... je ne sais pas si le rodéo est vraiment la forme la plus achevée de la beauté et des beaux-arts. Eh bien, ce n'est pas ce que pense une cinéaste qui a été reçue à Cannes pour faire la promotion des rodéos urbains dans son film qui s'appelle évidemment Rodéo. Alors écoutez Lola Kivoron qui a parlé effectivement de son film à Cannes. Écoutez ce qu'elle a à en dire.
La pratique, en fait, est très relayée sur les réseaux, un peu comme à l'époque du skateboard. En fait, c'est un phénomène de société, le cross-bitume, la bike life. On parle de rodéo urbain, rodéo sauvage, c'est pire, parce qu'en plus, ça fait penser à ensauvagement. Donc là, on a envie de rayer à fond ces idées, ces imageries, qui sont des imageries complètement réactionnaires. En fait, la pratique, elle est criminalisée à mort, parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents, mais surtout, les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse les riders vers la mort en fait concrètement.
Voilà, alors tout y est. Hein. Alors elle a coché toutes les cases, Lola Kivoron. Alors toutes les cases du bobo, woke, absolument doxisé, formidable. Donc les rodéos, écoutez, c'est du sauvage, etc. Mais c'est divertissant. C'est criminalisé à mort, alors que je rappelle, on n'a pas les chiffres, mais le nombre d'accidents qui peuvent effectivement passer, accidents de voiture, accidents de piétons, des gens renversés, des motos effectivement renversées, etc. Eh bien non, s'il y a eu des accidents, dit Lola Kivoron, c'est uniquement dû aux flics. C'est aux flics qui effectivement poussent ces pauvres racisés et ces pauvres prolétaires, évidemment, parce que tous les gens de rodéo sont des prolos, bien sûr. Ou du lumpen, enfin. Et puis voilà, c'est à cause de ça qu'effectivement, c'est grâce aux salauds de flics qu'effectivement, ça se passe comme ça. Voilà, les rodéos. Attendez, c'est quand même un truc, je veux bien les rodéos, je veux bien... Mais vous savez, quand James Dean faisait Rebel Without a Cause, les rebelles sans cause, etc., eh bien, il faisait des rodéos de voitures, mais ça se faisait en plaine, et sur une colline, et au bord du précipice. Voilà, on aimerait bien que les gens prennent des risques et vive la culture du risque. Vive la vie qui est un métier à risque, mais pas sur le dos des autres. Et les rodéos urbains, excusez-moi, ça se fait sur le dos des autres, ça se fait sur des gens qui n'ont rien demandé, qui passent avec leur poussette en voiture, qui passent en famille, qui les voitures, et voilà, et qui se font renverser, qui se font écrabouiller par ces merveilleux rebelles, vous rigolez, sur leur drôle de machine. Alors vraiment, allez, raison gardée, hein. Et penser aux enfants renversés lors des rodéos urbains, c'est un dommage collatéral. Et c'est pas forcément provoqué par la police. Alors, allez, doucement les basses. Hein. Allez, un tout petit peu de pudeur et de tact.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Mon Dieu. sans ça, ça n'ira pas. Paye des dettes, paye des dettes, une, deux.
Alors c'est très intéressant aussi, on parlait de Davos hein, un peu plus tôt. Eh bien, il y avait à Davos, tout le monde est là, vous savez, tout le monde, tout ce qui compte est là, voilà, tout ce qui est bankable est là. Eh bien, c'est intéressant l'inflation. Vous savez, on parle tout le temps de l'inflation, d'où vient l'inflation, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et évidemment, évidemment, tout vient aujourd'hui, la hausse des prix, la hausse de l'Ukraine, de la guerre, je veux dire, russo-ukrainienne, de l'invasion des Russes en Ukraine, tout vient de là. Et ça a été répété par qui ? Rien de moins que le gouvernement de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit très exactement, l'inflation causée par le conflit en Ukraine, dit le gouverneur de la France de France, c'est le prix à payer pour défendre nos valeurs. Je répète aux auditeurs de Sud Radio, le prix à payer pour défendre nos valeurs. Ça veut dire que selon lui, si l'huile augmente, si les produits de première nécessité augmentent, si le fuel augmente, si tout augmente, eh bien, il faut le supporter, c'est pour défendre nos valeurs. Évidemment, on le supporte beaucoup mieux à 30 000 euros par mois qu'à 1 500 euros par mois. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein ? Faut souffrir, hein ? Faut pas exagérer. Et voilà, c'est quand même absolument formidable. Ça passe crème parce que, évidemment, les gens de l'inflation, c'est comme la pluie. Hein. Ça vient comme ça, on ne sait pas où ça vient. Eh bien, heureusement, il y a quand même des économistes qui répondent hein, et qui disent, écoutez, il ne faut pas oublier ceci, voilà. Et il dit ceci, Marc Touati, je le cite, le problème c'était 2021, on s'apercevait que le Covid ce n'était pas la fin du monde, mais les banques centrales et les États continuaient leur déni de réalité. L'inflation au troisième trimestre est à 7,5% de l'inflation de la zone euro. Le travail d'une banque centrale, ce n'est pas de financer la dette publique, ce n'est pas de faire plaisir au gouvernement, au marché. Plus on tarde à agir, plus la réalité va faire mal, les chèques, ça alimente l'inflation. Et oui, ça a été ça. Les États et les banques centrales ont continué la planche à billets, mais oui, allez, qu'importe le Covid, qu'importe la Russo-Ukraine, pourvu qu'on ait l'ivresse de la distribution et de la planche à billets. Voilà, alors évidemment, on distribue des chèques et l'inflation. Eh bien, écoutez, avant l'Ukraine et avant la Russie-Ukraine, elle vient de là, l'inflation. C'est bien de le rappeler.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste.
Alors on ne va pas accabler Damien Abad qui a déjà suffisamment des problèmes. Mais Damien Abad, c'est devenu le comprimé chauffé à blanc de comment on élimine quelqu'un tout en le flattant. C'est-à-dire, c'est la parabole presque biblique du « on lâche ». Comment ça se passe ? Trois actes, effectivement. D'abord, premier acte, je rappelle que Damien Abad était l'ancien président des députés LR, porte-parole, enfin le représentant des LR pendant des années. Et voici un petit florilège de ce que disait Damien Abad visant Emmanuel Macron et le macronisme. Écoutez, ça vaut son pesant.
Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, donc on va continuer de le faire. Comment vous prenez cette déclaration choc d'Emmanuel Macron ?
Je trouve cela d'un populisme froid, calculateur, qui montre que le président de la République a fait une rechute, alors qu'il avait fait une émission télévisée il y a quelques jours pour dire qu'il aimait les Français et qu'il ne voulait plus ces petites phrases. Mais la vérité, c'est que le naturel revient au galop.
La vérité, c'est que le président de la République, il propose aux Français avec ce budget un jeu concours qui s'appelle « Qui veut gagner des milliards ?». La réalité, c'est quoi ? C'est qu'il utilise le chéquier de la France à des fins électorales.
Et surtout, dénoncer la supercherie d'Emmanuel Macron entre d'un côté les paroles et de l'autre les actes.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je dis que souvent l'emballage est de droite, mais que dans la réalité, le produit est de gauche.
Eh bien voilà. Vous avez vu, hein, les punchlines, il est bon, hein, Damien Abad, dans les punchlines, il y va, là, et, attention, il ne fait pas de quartier, etc. Et puis, d'un coup, eh bien, il change de braquet. Il prend ses distances avec LR, il dit, je veux voir ce que je vais faire, je ne sais pas encore, etc. Et, attention, alléluia, Saint-Paul sur le chemin de Damas, il devient ministre, des solidarités et du handicap, dans le tout nouveau gouvernement Macron. Voilà, donc Damien Abad, très bien, il est ministre, mais tout ce qu'il a dit sur Macron pendant des années, des mois, et ben écoutez, oui, ben il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, donc voilà. Le voilà ministre. Et on arrive au troisième acte. Et ben le troisième acte, on sait, ce sont les accusations de viol visant le nouveau ministre des Solidarités. Et bien, comme par hasard, ça sort dans Mediapart le lendemain de la formation du gouvernement. Le lendemain. C'est un hasard. Ça n'existait pas avant, voilà. Donc, tout de suite, Damien Abad, voilà. Et alors, effectivement, aujourd'hui, il dit, il n'y a pas question que ça démissionne, etc. Mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que, voilà, chef des opposants à LR pendant 5 ans, on le neutralise en faisant ministre. Et s'il commence un peu à vouloir bouger, à vouloir se manifester, à vouloir avoir une marge de manœuvre, vous savez, eh ben on sort cette affaire de viol présumé. Je rappelle que Damien Abad est sous la présomption d'innocence, puisqu'une des affaires, une plaignante, l'affaire a été classée. Voilà, alors on ne parle pas de cela, mais c'est très intéressant, vous voyez, auditeurs du Sud Radio, chimiquement pur, comment on fait ? En 3 actes, Damien Abad est neutralisé. Ben, ça se passe comme ça, c'est normal. C'est la morale. Peut-être pas la morale, mais c'est la politique.
Et on se retrouve dans un instant pour parler de la nation. On a parlé du mondialisme et de Davos pendant longtemps. On va parler cette fois de la nation avec Bernard Bourdin.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et jusqu'à 14h avec vos appels au 0826 300 300, nous sommes avec Bernard Bourdin, professeur de philosophie, chercheur universitaire et co-auteur avec Philippe Diribarne de La Nation, une ressource d'avenir aux éditions Arthège. Bonjour.
Bonjour.
Chef-d'œuvre en péril, monstre du Loch Ness, qu'est devenu cet animal si nécessaire, au goût étrange venu d'ailleurs, la nation. Et oui, on parle de la nation, mais on en parle comment aujourd'hui ? Un livre vient de paraître, Bernard Bourdin, signé Bernard Bourdin et Philippe Diribarne, « La nation, une ressource d'avenir ». Et vous avez fait un livre vraiment que je recommande aux éditeurs du Sud Radio, Bernard Bourdin, parce qu'il est... Il est succinct au bon sens du terme, il est court, mais il est très nécessaire pour rappeler quand même de le contexte, effectivement, dans lequel on vit depuis des siècles. Et ce n'est pas rien, donc l'histoire de la nation, vous la racontez, comment on s'est dégagé de l'Empire, des Églises, etc. Que veut dire la souveraineté, que veut dire tout cela? Mais je voudrais surtout, on ne va pas raconter peut-être l'histoire de la nation, mais que vous définissiez, peut-être en reprenant la définition de Renan, je ne sais pas si c'est à vous de voir... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une nation ? Comment on peut la définir ?
Alors c'est la question absolument centrale, en fait. Hein. On démarre fort, là. Un petit rappel étymologique, la nation, c'est là où on est né. Hein. On est dans la nature d'ailleurs, d'où le mot de naturalisation.
Oui, c'est là où on est né, oui, c'est vrai.
Ceux qui ne sont pas nés là, ils sont naturalisés. Ils sont dans la nature du peuple... qui les a reçus, qui les a accueillis. Donc, il y a cette dimension-là. Alors, ensuite, au cours des siècles, la notion a été très évolutive, et plutôt que d'en faire une notion à tort rigide, et qui se ramènerait simplement au nationalisme identitaire, au repli sur soi, enfin, vous connaissez tous les discours et les poncifs dans ce domaine-là, en réalité, c'est une notion très flexible, qui a pris plusieurs significations au cours de l'histoire et selon les pays. Si on prend le cas français, c'est une vision surtout politique, en fait, et très liée au contrat depuis la Révolution française.
Pour revenir à la France. La nation française, aujourd'hui, si vous aviez à la définir, vous diriez quoi ?
Alors, aujourd'hui, la nation française, justement, si elle est fidèle à sa définition d'origine, elle a à la fois une signification politique qui me paraît être indispensable et sur laquelle on pourra même revenir dans le contexte européen en particulier.
Oui, on en verra. Mais et là, aujourd'hui, disons, la définition d'origine, la définition de base, quoi, je dirais.
Bah, aujourd'hui, le problème, c'est que sa définition de base aujourd'hui, elle est très mise à mal. C'est pour ça que je vous réponds en faisant des détours.
Alors, je vais préciser ma question. Quelle est la définition d'origine ? La définition de base, quand la nation française s'est constituée, disons, on dirait quoi ?
La nation de base, c'est l'ensemble du peuple qui fait partie de la nation, en fait. Il y a une fusion peuple et nation. avec la Révolution française. Alors qu'avant, la nation, c'était les grands, et le peuple, c'était le petit peuple. Oui. Là, désormais, depuis plus de deux siècles, c'est, tout le monde fait partie de la nation, et voilà. C'est, donc, peuple et nation sont des notions indissociables. Alors, on en revient, quand même, je ne veux pas éluder la question que vous posez, elle est très importante. Dès lors où ces notions de peuple, de nation, d'appartenance à une communauté historique, à une forme politique commune est mise à mal, et c'est d'où votre question.
– C'est le cas, oui.
– À ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué de la définir aujourd'hui, hein, et on est plutôt devant une définition, j'allais dire, presque naturellement archipélisante. Hein, vous penserez au livre de Jérôme Fourquet, qui a fait date, et de façon méritée d'ailleurs. C'est devant la nation est un terme de convenance, mais au fond on est devant.
En fond, on peut pas la définir aujourd'hui.
Elle est devenue en fait assez indéfinissable.
Et donc l'entreprise
de ce livre, justement, ouais. et je comprends bien votre question, c'est d'essayer de la redéfinir en fait. Hein. C'est pour ça que je suis un petit peu embêté de vous répondre comme ça, parce que il s'agit de la redéfinir. On est plus devant l'archipel.
Elle a été ce qu'elle a été il y a deux siècles ou un siècle. Oui. Elle a été érodée, transformée, archipelisée. Morcelée par un certain nombre d'événements historiques, de faits historiques, pardon. Et vous dites aujourd'hui, il faut la reconstruire quelque
absolument.
Part.
Absolument, il faut reconstruire le concept, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans l'idée que c'est un pur anachronisme ou un avatar de l'histoire, puisqu'il y a l'Europe, ou inversement, c'est une nostalgie archaïque qu'il faudra reproduire par une espèce de vision éthiquement pure.
Ni repli sur soi, ni fusion dans le post-national.
Absolument. Absolument.
Eh bien, on en parle tout de suite après les informations. On va continuer avec Bernard Bourdin.
Et vos questions, vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
La nation, une ressource d'avenir. Et oui, parce que certains disent « Ah, cette pelée, cette galeuse, d'où vient tout le mal ?» Eh bien non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La nation, on en a besoin. Et on en a plus que jamais besoin en ce 21e siècle, fauteur de tellement de conflits, de partitions et autres libanisations. Justement, Bernard Bourdin, donc vous avez écrit ce livre avec Philippe Diribarne, ce livre très, très, très précis et très renseigné. Et alors, on parle de ça. Je voudrais qu'on parle un peu de, au fond, le théâtre de la nation, c'est un théâtre des opérations entre les droits de l'individu et le devoir du citoyen. On a l'impression que le balancier est passé d'un côté et que la nation, presque, on veut jeter le bébé nation avec l'eau du bain. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Je pense que depuis... par rapport à la question de l'individu et puis du citoyen, je dirais qu'après 68, le phénomène se produit. C'est-à-dire qu'on a un discours sur les droits de l'homme qui est moins une philosophie qu'une idéologie d'émancipation. Et donc la nation apparaît comme étant le dernier frein qu'il faut faire sauter.
En quoi la nation empêche l'émancipation et empêche l'individu, quelque part ?
Parce qu'elle est trop particularisante, et l'individu lui recherche la satisfaction de ses désirs, et l'individu, c'est une forme d'universel. Qu'on soit allemand, français ou indien, n'importe où, pourvu qu'on réalise son destin personnel, tout va très bien. Donc, prenons le cas de l'immigration, c'est un peu ça, les nations deviennent des autoroutes, en quelque sorte, de la terre est à tous. C'est l'alliance de l'individualisme radical avec un universel de surplomb. Et donc la nation là-dedans, elle est coincée. Elle apparaît comme étant ringardisée.
Obstacle, presque.
L'obstacle, c'est l'obstacle.
C'est d'ailleurs, vous parlez de 68, un des slogans de 68, c'était « Les frontières, on s'en fout ».
Oui, c'est exactement ça. Et donc c'est l'obstacle à abattre, et y compris dans la construction de l'Europe, sur laquelle on reviendra certainement, qui devrait se substituer finalement aux nations. Alors qu'en réalité, c'est ce qui fait que l'Europe est un objet marchand non identifié, c'est qu'elle ne sait plus d'où elle vient, dès lors qu'elle nie ses propres nations.
On l'a construit sur l'euro et l'économie avant de la construire sur l'identité. Absolument. Et le retour de bâton est là.
Absolument.
Mais justement, alors aujourd'hui,
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un réveil des nations? On l'a bien vu, d'ailleurs, avec l'Ukraine. Quelle que soit la journée, qu'on en parle un peu, parce que quel que soit le parti qu'on peut avoir là-dessus, il ne s'agit pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais il y a eu incontestablement un réveil des nations, enfin, il y a l'Ukraine, et puis beaucoup plus large, quand même, la Russie aussi, de son côté, un réveil national. Après, le communisme était internationaliste, le soviétisme aussi, puisqu'il y avait l'Empire soviétique. Alors, et ce réveil des nations, il est assez général? Est-ce qu'il inclut pour vous des grands blocs comme la Chine, ou c'est encore autre chose?
Alors, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une conscience nationale collective très claire, si on prend le cas de la Russie ou de la Chine, c'est évident, mais le mot n'a pas le même sens. On voit bien qu'en même temps, il se couple, si on prend les grands espaces comme la Russie ou la Chine, avec le vieux mythe impérial, quand même. Hein. Mm-hmm. Et donc, c'est la nation-empire. Et donc, elle cherche à... On voit bien le problème de l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, c'est un cas intéressant, et comme vous dites, sans chercher à entrer dans le débat Poutine ou anti-Poutine, ça va bien au-delà de sa seule personnalité. L'Ukraine, je suis allé, comme en Russie d'ailleurs, c'est un pays qui parle sa propre langue depuis une dizaine d'années.
Oui, c'est ça.
Et on voit l'intérêt, la montée en puissance d'une conscience nationale, et qui se heurte au vieux mythe impérial russe, et je dirais aussi soviétique plus récemment. Et là, on voit bien l'actualité de la nation, comme facteur d'émancipation. Mmh. Et c'est tout à fait clair. Et on pourrait multiplier bien d'autres exemples. Plus anciennement, prenez tous les processus de décolonisation. Oui. Ça justifiait l'essor de nations dans toute l'Afrique noire, en Asie.
C'est vrai, sauf que certains découpages étaient en dépit des identités ou du bon sens. Mais enfin, c'est autre chose, ça.
Mais ça, c'est autre chose. Mais on voit bien que la nation l'a refait surface. Mm-hmm. Mais alors, inversement, face à l'Union européenne, l'Ukraine est un petit peu entre le marteau et l'enclume, hein, entre la Russie dans sa vision, disons, impériale, mais même l'Union européenne, à sa façon, est une forme d'empire techno-démocratique, je dirais. Mm-hmm. Et par exemple, la proposition, à mon sens, dangereuse de vouloir intégrer très vite l'Ukraine dans l'Europe en dit long sur l'incapacité de comprendre que ce pays a besoin, certes, d'être protégé, mais en même temps de le laisser grandir dans sa propre conscience nationale.
Bien sûr, comme vous dites, c'est très récent.
Et ça c'est très clair. C'est un cas extrêmement intéressant, mais là, on joue avec de la dynamite, parce que forcément, ça va être l'opposition Moscou-Bruxelles. Pour empêcher qu'un pays puisse enfin manifester sa conscience nationale.
Oui, mais par exemple aussi, il y a des retours, c'était très intéressant, par exemple, qu'un Trump parle de « America first », etc. Retour. On n'en parlait plus, l'Amérique, c'était l'Empire. Et puis voilà. Mmh. Et puis, il y a autre chose aujourd'hui, on a parlé de l'Israël. Donc, si vous voulez, en fait, le prurite nation, enfin la dimension nation, en fait, elle est là, soit elle est la belle au bois dormant, soit elle se réveille, quoi. Et en fait, si on revenait alors à Renan, on en parlait hors antenne, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui pour dire, attendez, la nation, on ne peut pas s'en passer, comme vous ne pouvez pas vous passer de vos bras, de vos jambes, et voilà.
Ah bah, dans la ligne de Renan, la nation ne peut pas s'en passer parce que c'est comme une famille, au fond. C'est-à-dire qu'on a une histoire, on a un récit commun. Et c'est ce qui fait l'intérêt de Renan, c'est que Renan n'en appelle pas ni à la religion, ni aux frontières géographiques, à rien de tout ça. Au fond, il en appelle à l'histoire. Et dès l'instant...
L'identité
commune, c'est ça. Il faut oublier qu'il écrit sa conférence, et elle est après la défaite de Sedan. Et donc ça joue énormément. Mais au-delà du seul contexte, ça vaut encore pour aujourd'hui, dès lors que nous n'ayons plus une conscience d'appartenance historique commune, il n'y a plus de communauté de destin. Donc de fait, ça rejoint la question de départ que vous m'avez posée, qu'est-ce que c'est que la nation aujourd'hui? S'il n'y a plus de communauté de destin, il n'y a plus de nation. C'est un archipel. Or, nous avons besoin, d'une manière incompressible, d'une histoire commune finalement, qui nous réunisse. Et cette histoire, ce n'est pas une question d'identité, de fascination ethnique, etc. C'est le fait que nous avons vécu des choses en commun et que nous entendons de continuer à les vivre en commun. Donc il y a une histoire. Et donc là, nous formons nation. Nous formons nation. Que l'on soit noir, jaune, blanc, peu importe, nous formons une nation.
Mais alors justement, comment faire de faire nation ou de former nation au moment où on le sait très bien que l'intégration ou l'assimilation devient des obstacles de plus en plus difficiles, voire impossibles? Comment un certain nombre de gens, encore une fois, Bon, ils sont français de papier, soyons clairs, ils le disent eux-mêmes, je veux dire que le reste ne les intéresse pas du tout. Donc, est-ce que c'est quelque chose où on va dans un mur, ou c'est quelque chose qu'on peut, à votre avis, corriger ? Puisque c'est le centre de votre livre, ouais. Que faire ?
Que faire, oui.
Comme disait Vladimir Ilitch.
C'est ça, exactement. Alors, soyons concrets ensuite, évidemment. D'une part, il faut qu'il y ait une volonté politique de l'État pour ça. Une nation, elle n'existera, et en France encore plus, c'est à plus forte raison très vrai, la nation, elle est liée à l'État. Donc si l'État n'a plus du tout la volonté de nous faire vivre ensemble, on court...
Vous avez l'impression que c'est un peu le cas en ce moment?
C'est un peu le cas depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'on oscille entre Charybde et Scylla, quoi. C'est leur en même temps, si vous voulez. Voilà. Donc il va falloir être clair là-dessus. Est-ce que nous voulons toujours, comme disait Renan, vivre la nation comme un plébiscite de tous les jours ? Oui, d'accord. Alors oui, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'à l'éducation nationale, nous enseignons toujours concrètement notre histoire commune ? Et donc, ça veut dire que l'étranger qui est arrivé, lui, a le droit de connaître cette histoire et y entrer. Ce n'est pas qu'un titulaire de droit, justement. On revient à la question de tout à l'heure. Ce n'est pas qu'un sujet, c'est un citoyen.
Je dirais le droit et le devoir.
Et le droit et le devoir. Ouais. Donc, l'accueillant comme l'accueilli peuvent marcher main dans la main s'ils se disent, nous avons bien cette histoire commune. D'ailleurs, on en rigole beaucoup, mais nos ancêtres, les Gaulois, qui est un pur mythe, mais permettaient d'égaliser la condition de tous.
Absolument.
Qu'on soit noir ou qu'on soit blanc, si nos ancêtres sont les Gaulois, c'est que nous sommes égaux.
Et nous choisissons nos ancêtres, et c'était une bonne chose.
Et absolument. Ouais, donc les mythes servent à quelque chose. Alors, il y a ça, l'histoire, et puis bien sûr, il y a la langue, indéniablement. Dès l'instant où la langue est galvaudée, que voulez-vous, une langue permet de réunir une nation. C'est un critère. C'est fondamental. Donc la littérature, aussi, du coup, derrière la langue.
La culture, la littérature. La culture.
Ça passe par tout cela. Et ça, c'est la mission de l'école, qui est une mission même de l'État par excellence, de transmission d'une société, d'une nation. J'en sais quelque chose, puisque je suis moi-même professeur, je peux vous dire que les jeunes d'aujourd'hui, qui ont 18 ou 20 ans, qui arrivent à l'université, ne demandent pas mieux, finalement, qu'on leur transmette quelque chose. Je crois que c'est un fantasme de croire qu'ils ne s'intéressent qu'à l'informatique, c'est pas vrai du tout, la culture est fondamentale.
– Encore faut-il avoir la volonté de leur transmettre cela, et voilà. Vous avez raison, vous posez, c'est la bonne question, ce sont les bonnes questions, on en parle tout de suite après cette pause.
– Et alors, comment refaire nation ? Vous nous appelez au 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Un miel ami romancier qui, hélas, est parti, avait trouvé un très beau titre pour son roman « Idiot cherche village ». Aujourd'hui, ces citoyens cherchent nation, désespérément. Et c'est de plus en plus important. Bernard Bourdin, avec Philippe Diribarn, vous avez écrit « La nation, une ressource d'avenir » aux éditions Artege. Un livre, encore une fois, que je vous recommande. Et on parle un peu de ça, et c'est intéressant, parce que la première partie de l'émission était consacrée au poste national. C'est à l'ère Davos qui se passe en ce moment. Là, la convention internationale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui se tient à Genève, en même temps, c'est le cas de le dire. Et puis, ce monde post-national, il y a Davos, OMS, puis l'ONU, et puis même l'Union européenne. L'Union européenne est-elle post-nationale ou autre chose ? Alors, que devient la nation dans cette espèce d'extraordinaire éclatement, multilatéralisme, monde éclaté, multipolaire, etc., etc.
Ben, elle apparaît comme étant un nain, impuissant face à toutes ces puissances. Mais en même temps, elle est aussi, c'est le moment de le dire, elle est la solution, au sens où on peut pas... Et depuis des siècles, c'est comme ça. Elle est une forme ni trop grande, qui serait la forme empire, au fond, et on pourrait prendre le cas de l'Union européenne dans ce sens-là, ni trop petite comme la région ou la cité. Et donc, elle est à la bonne taille, je dirais, pour permettre au peuple de s'identifier à une collectivité et exister au sein de ce monde mondialisé. Autrement dit, plus il y a de mondialisation, plus il y a d'organismes internationaux que vous évoquez et d'interdépendance, comme le disait déjà De Gaulle en son temps, d'ailleurs il parlait déjà très clairement d'interdépendance, c'est pas d'aujourd'hui.
Tout à fait.
Il était tout à fait conscient
de ça. Sauf que lui s'était retiré de l'OTAN.
Oui, ça en même temps. L'interdépendance, mais dans la souveraineté de chacun.
Voilà. Alors,
exactement, on y vient. C'est-à-dire que l'interdépendance ne signifie pas l'espèce de boudibulga où plus personne ne sait qui il est, mais au contraire, renvoie à la nécessité de s'identifier à des collectivités clairement repérables. Plus il y a de mondialisation, si on veut éviter la balkanisation, comme dirait Régis Debray, il faut effectivement la nation. Alors pas au sens ethnique, mais au sens de formes politiques, culturelles, parfaitement identifiables, et qui sont souveraines, et qui peuvent, entre elles, établir des rapports de coopération, d'entente, et donc ne pas vivre dans le repli, ça n'a rien à voir avec ça, mais au contraire, dans l'ouverture, parce qu'elles se savent être des nations. Et donc je crois que par rapport à tout cela, il n'y a aucune contradiction entre se retrouver à Davos, parler des problèmes mondiaux, de la santé, de la pandémie, etc., et en même temps être des États souverains nationaux qui savent clairement qui ils sont.
Mais donc, par exemple, pour prendre un exemple très précis, le professeur et l'écrivain, l'essayiste que vous êtes, quand par exemple on dit qu'il faudrait confier, enfin certains disent qu'il faudrait confier à l'OMS la gestion de la santé pour tous les pays au monde, vous ne trouvez pas que c'est la meilleure des démarches ?
Ben, si les États sont complètement dépossédés de leur propre politique, oui, effectivement.
Où est la souveraineté ?
Voilà. Bien sûr que qu'on soit dans l'interdépendance. Il y a des problèmes mondiaux qui se posent, il ne faut pas le cacher.
Bien sûr.
Donc, qu'il y ait des organismes mondiaux pour ça, c'est très bien. Mais à condition que ce ne soient pas des organismes
qui dicte leur volonté.
Voilà, exactement ce que je veux dire, qui impose des injonctions. Et donc, prenons l'exemple qui est très récent, on l'a vu avec la perte de notre souveraineté sanitaire, prenons la question des masques. C'est très concret. Hein. Dans le gouvernement, enfin l'avant-dernier gouvernement, maintenant l'avant-dernière mandature, que j'aurai la grâce de taire, mais vous m'avez compris, il fallait abandonner les masques, ça ne servait plus à rien, tout va très bien, il faut être dans un pays complètement du tiers-monde pour qu'on ait encore besoin de masques. On s'est rendu compte, été 2020, que nous avons besoin de masques. Donc, on s'est mis à parler de souveraineté sanitaire.
Ouais.
Donc ce qui en dit long, c'est que nous avons besoin de ce cadre étatico-national pour exister, c'est très clair. Sinon, on ne sera pas universel, en fait.
C'est ça.
On sera purement démondialisé hors sol, ce qui n'est pas la même chose.
Tout à fait. Et vous pensez que, de ce point de vue, la nation est le cadre idéal ?
Je dis pas, absolument.
Mais le cadre idéal, c'est ça.
C'est le cadre idéal parce qu'encore une fois, c'est la bonne forme intermédiaire, ni trop petite, ni trop grande. Et dans toute son histoire, elle aura permis, pour cette raison-là, une émancipation des peuples par rapport à toutes les féodalités du temps, et il y en a de nos jours, autrement. Prenons les GAFA, ce sont bien des féodalités, en réalité, et qui en appellent d'ailleurs à la souveraineté. En fait, le concept n'est pas épuisé,
Bien. Et donc, regardez les efforts pour que les GAFA payent les impôts aux nations.
Absolument. Donc, ce qu'on jette par la porte revient par la fenêtre. Ce qui prouve bien que la question, on ne peut pas l'éluder.
Oui, c'est ça. Et en même temps, encore faut-il que la nation ne se laisse pas, je dirais, gérer et guider par des cabinets de conseil internationaux.
Oui.
C'est encore autre chose, mais ça, c'est du ressort, effectivement, du facteur humain, des politiques qui sont là. Et alors, par rapport à, effectivement, on a parlé de tout ça, donc, mais quand même, le paysage, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste, Bernard Bourdin ? Parce qu'on a parlé de la désintégration face à l'intégration. On a parlé du manque d'assimilation face à la nécessité d'assimilation. Est-ce que quand même l'Union européenne, aujourd'hui telle qu'elle fonctionne, il y a le côté communautarisme, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, les fractures françaises dont tout le monde se repaît, mais est-ce que tout ça, plus l'Union européenne, ne fonctionne pas contre la nation ?
C'est vrai, ce que vous dites, la réaction première qu'on peut avoir... c'est de se dire qu'on est un petit peu comme c'est le combat de David contre Goliath, comme on dit, et va-t-on y arriver ? Donc on pourrait à bon droit être d'abord et avant tout pessimiste. En même temps, je crois que situation-là est tellement... nous conduit tellement à une impasse, voire à l'abîme.
Une impasse violente, oui.
Violente, oui, absolument. Que je pense que... je crois au sursaut des peuples, une espèce de sagesse des nations, c'est le moment de le dire. La dernière présidentielle l'a montré. Alors, d'abord sous le jour inquiétant de l'affaire, c'est-à-dire que on a un président de la République qui finalement, paradoxalement, a été réélu, mais minoritaire. Le 10 avril, on a compris, j'espère que lui l'a compris, qu'il est minoritaire, en fait. Puisque si on regarde la transversalité de l'électorat gauche ou droite, ou extrême-droite,
traditionnel, oui, enfin,
ouais. Il est tout à fait anti-européiste, globalement national. Alors, avec Mélenchon, oui, c'est un peu plus complexe. Mais
non, mais il y a une majorité de Français qui sont...
Très clairement. Hein, et donc, d'ailleurs, Mélenchon l'a si bien compris qu'il a déclaré par 3 fois ou 4 fois qu'il fallait voter contre Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il avait compris que son électorat est très flexible.
Bien sûr.
On voit bien qu'il y a plus... Quand on a été élu président de la République, il y a 8% des voix en moins par rapport à 2017, que la pression nationale est de plus en plus grande. La pression à reprendre son destin, plus grande. Donc, je crois que à un moment donné, fatalement, progressivement, c'est lent, mais la question va, la bascule se fera.
Oui.
Et moi, je crois qu'elle se fera. Alors, pourvu qu'elle ne se fasse pas d'une manière violente, là, on peut s'inquiéter. Hein.
Peut-être qu'on ne l'évitera pas.
Peut-être que momentanément, hélas, on ne l'évitera pas. Mais je ne crois pas qu'on va continuer sur cette pente-là très longtemps. Mmh.
Et juste un mot, avant de donner la parole à nos auditeurs, l'Europe, est-ce qu'elle peut continuer comme ça ou faire autre chose? Parce que l'Europe apparaît aujourd'hui, tout se passe comme si l'Europe, franchement, y compris dans ce couple franco-allemand qu'on nous a présenté comme le couple idéal, hein, au-delà du Pax et du mariage heureux, on voit très 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 bien les dissensions sur le gaz, sur les achats d'armes, sur enfin, beaucoup de choses, donc... Au-delà de ça, est-ce que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, il ne s'agit pas de la jeter, au contraire, mais comment peut-on effectivement qu'elle respecte plus les nations tout en étant, parce que regardez les normes européennes, regardez, enfin, tout le monde se plaint de cela, nos paysans, etc. Comment concilier cette contradiction énorme et quelquefois absurde entre les normes européennes, les directives européennes et la nation?
Dans le contexte actuel de l'Europe telle qu'elle se conçoit, c'est impossible. Le conflit est fatal, puisqu'on est devant une vision supranationale de l'Europe. Et avec, du même coup, une dépolitisation du projet européen, une déshistoricisation aussi, en fait.
Ouais.
Et c'est même une Europe sans conscience historique et civilisationnelle. C'est une Europe pour la seule chose qui compte, c'est les valeurs démocratiques, le droit, c'est le patriotisme constitutionnel, si vous voulez, c'est le reste ne compte plus. Ce qui n'était pas vrai encore avant les années 80, ça l'est devenu après de manière très nette. Alors évidemment, cette Europe-là, elle ne peut qu'aller droit dans le mur, ça ne marchera pas. Donc il y a incompatibilité. Donc il faut retrouver un sens, un véritable projet politique européen, et ça veut dire retrouver une conscience historique de ce qu'est l'Europe. Pas simplement uniquement des nations, mais de l'ensemble des nations européennes.
Une certaine idée de l'Europe.
Une certaine idée de l'Europe comme civilisation, comme culture commune.
Recommande d'ailleurs aux auditeurs de lire le merveilleux livre de Georges Steiner qui s'appelle « Une certaine idée de l'Europe » sur lequel il se base sur, culturellement, il n'y a pas un mot d'économie, sur ce qui a fait l'Europe. Les cafés, les rues, les droits de l'homme, l'habeas corpus, etc., etc., etc. Donc on en reparle avec les auditeurs Sud Radio et vous-même Bernard Bourdin, la nation incontournable.
Il vous reste à peine une demi-heure pour nous appeler au 0826-300-300. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous allons à Bayonne avec César. Bonjour César.
Bonjour. Ave César.
Oui, bonjour André.
Oui, on
et
vous l'a
fait
depuis 50 ans, je sais. Oui, dites-moi César. Oui.
Alors d'abord, avant de commencer, je tiens à vous dire, Berkov, que sur Bayonne, il y a plein de gens qui adorent votre émission. Ah. Vous pouvez être fier de vous, je voulais vous le dire.
Merci, merci. Ben écoutez, ça me touche beaucoup. Merci, merci César. Alors dites-moi tout.
Alors écoutez, pendant les manifestations, vous savez, beaucoup de gens ont prôné le slogan « Liberté et vérité », et c'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui.
Mm-hmm.
Et je vais le faire en 2 points.
Oui.
Donc le premier point, c'est que ce concept de nation, et je salue le monsieur qui est là, il s'appelle monsieur Bourdin. Monsieur Bourdin,
oui.
C'est tellement magnifique ce concept, du coup je suis hyper content de parler, alors, parce que j'y réfléchis. Donc, le premier point, c'est d'abord la diversité. On parle aujourd'hui de diversité, et je trouve que monsieur Berkov, vous incarnez superbement bien la diversité, parce que vous interviewez tout le monde, et avec un super respect, je trouve ça tellement bien. Et donc, la diversité permet la vérité. Voilà, c'est ça que je veux dire en premier point.
Oui. Et
le fait que chaque pays soit différent, avec une langue, une culture différente, eh ben mine de rien, sans parler d'ostraciser un pays contre un autre, parce que moi j'adore le concept de la société ouverte dans l'Union européenne, le fait que chaque pays puisse aller dans un autre, c'est vouloir avoir des frontières fermées comme les Frexiteurs, tout ça, parce que j'en suis un et je trouve ça dommage. Moi je rêverais d'un Frexit ouvert, voyez.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire un Frexit où les gens, c'est un peu comme l'Union européenne, mais mais c'est un Frexit.
On est en France, mais on n'est pas fermé, on est refermé sur soi, on est d'accord.
Exactement, les Espagnols sont nos frères, les Allemands sont nos frères aujourd'hui. Il ne faut plus qu'on leur dise non, vous ne pouvez plus venir. Il faut qu'on crée, si quelqu'un pouvait créer le concept de Frexit, et je lance un appel, si quelqu'un avait l'idée de mettre en place un Frexit ouvert et faire exactement comme l'Union européenne, en tout cas prendre le meilleur de l'Union européenne, et dire voilà, ceux qui sont en Europe, ils peuvent venir, mais par contre, le pays, il peut prendre des décisions personnelles. Il peut donner à Raoult ou au professeur Perron les pleins pouvoirs et leur dire, et lui dire, voilà, nous on trouve que tu es mieux que les Gilbert Deray et les Karine Lacombe. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une diversité. Et donc, c'est la première chose.
Le concept est lancé, César. Les auditeurs de Sud Radio vont le reprendre.
Je l'ai dit en même temps. Je souhaite en fait qu'on réfléchisse ensemble à un Frexit ouvert.
D'accord.
Et qu'on s'engage, parce que c'est très important, à faire un peu de charité aux pays qui sont les plus défavorisés.
Ouais, bien
et
sûr.
Qu'on s'engage toujours parce que.
On est d'accord.
Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que si aujourd'hui on retrouve le concept de nation comme on en parle aujourd'hui, mais qu'on. Et donc ça permet la vérité grâce à la diversité, et qu'en plus on s'engage à faire une société ouverte.
On est d'accord, César, voilà, c'est bien. Non, alors, le Frexit ouvert, c'est intéressant parce que ça renvoie à quelque chose. C'est-à-dire, dans ce qu'a exprimé César, c'est vraiment ça. Ok, on n'est pas fermé, on n'est pas refermé, mais en même temps, on a envie d'être maître chez soi. Voilà.
C'est exactement, je pense que César pose très bien le problème. Comment être à la fois pleinement maître de son destin, donc Frexit, si vous voulez, c'est la métaphore de la reprise en main de son destin, et en même temps, on ne fait pas la grimace aux Allemands et aux Espagnols, quoi, c'est ça. On n'a aucune raison d'ailleurs, tout dans les situations de guerre mondiale.
Bien sûr.
Et donc de fraternité des peuples européens, tout à fait. Mmh. Non, je pense que. J'ai rien à ajouter, je pense que le propos est très juste.
Très juste.
Il est très très juste et il casse ce que dit l'auditeur, casse ces idées fausses d'une nation qui serait toujours dans le repos sur soi.
Mais c'est les adversaires de la nation. Absolument. Qui souvent disent « Ah oui, vous les refermez, etc. » Vous savez, l'étiquette imbécile, conservateur et autres.
Absolument.
Tout de suite, nous sommes avec Chantal qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal.
Bonjour Chantal.
Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur Bourdin. Donc c'est vrai que nous en Corse, on est très sensibles à la nation.
Ouais, certes.
Parce que nous avons été nation avant la France, hein, donc avec une constitution et les droits de l'homme, puisque c'est plutôt la France qui a recopié notre constitution que l'inverse.
Toujours, la France vous occupe surtout, Chantal, vous savez.
Mais c'est vrai que je pense que ce n'est pas parce que on défend sa nation et sa souveraineté, bon là je parle de la France, hein, bien sûr, qu'on est forcément, je veux dire, être identitaire, ce n'est pas être sectaire.
Tout à fait.
Pense qu'il ne faut pas tomber d'une extrême à l'autre. Alors de montrer du doigt les gens qui veulent une souveraineté, une nation, ce ne sont pas forcément des personnes qui se referment sur tout le monde.
Ce qui est bien
et surtout ce qui est très riche, c'est que justement que chaque nation, avec sa culture, ses traditions, ses coutumes, sa langue, son histoire, moi quand je vais en Allemagne, j'ai envie d'entendre parler allemand, de connaître l'histoire allemande. Quand je vais en Italie, j'ai envie de connaître l'histoire de l'Italie. Et c'est ça qui fait cette
richesse. Et les spaghettis al dente quand même, Chantal. Ne négligeons pas la culture dans tous ses états.
Exactement, mais je pense que c'est très important de défendre sa culture, sa langue. Une nation, c'est quoi ? C'est quand même un hymne, un drapeau, une langue et des traditions. C'est ce qui fait une nation. Et on peut faire l'Europe des nations. Je veux dire, l'Europe, elle n'a pas attendu l'Union européenne pour exister.
Bien sûr. Je veux dire,
l'Europe a existé parce que tous les pays européens, c'était une union de chrétienté, à la base, au Moyen-Âge. Donc, je pense qu'il est important de reprendre sa souveraineté. et ça n'empêche à aucun moment d'être ouvert aux autres.
Tout à fait. Alors justement, Chantal vient de parler de quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, mais c'est vrai, les symboles, l'hymne national, le drapeau. Et oui, parce que là, on en parle, mais c'est juste si on en parle, quoi. Et la langue, bien sûr, ça, on en a parlé, Bernard Bourdin, mais c'est vrai, ce côté, le drapeau, oui, le drapeau, et puis, vous avez vu le nombre de gens qui disent « Ah, mais la Marseillaise, c'est trop violent, quand même, hein, qu'un sang impur abreuve nos sillons, etc., etc. » Quid de cela? Enfin, quel est votre... Est-ce que ça fait partie intégrante pour vous de l'esprit nation?
Absolument. Madame a raison. C'est... D'abord, la politique, c'est du symbole. Beaucoup de symboles. Dès l'instant, c'est plus qu'une technique. On se perd. On se désymbolise, précisément. Oui. Et donc, symbolon en grec, c'est ce qui unifie. Donc, concrètement, ça, un hymne national rassemble. Prenez l'exemple, ça me frappe au moment des Coupes du Monde.
Oui.
Le sport rapatrie la nation, on le voit bien.
Oui, moi, on chante l'hymne national.
Ah, oui, moi, j'ai entendu, quand on arrive en quart de finale ou carrément en finale, alors là, on est content. Moi, je commence à me réintéresser au foot à ce moment-là. Et vous entendez dans les appartements dans Paris les gens avec la Marseillaise. Et les jeunes, ils ont 20 ans, ils n'ont pas 80 ans, les gens. Donc, vous voyez, on voit bien que... C'est pas du tout... C'est là encore une idée fausse, une idée reçue. Les jeunes se ficheraient complètement de tout ça, c'est anachronique. C'est totalement fou. On voit bien combien par le sport, l'idée nationale reprend le dessus et ça se symbolise par l'hymne. Mmh, ça, c'est tout à fait net. C'est-à-dire qu'il y a besoin de resymboliser ce qui nous rassemble. Et sans aucune hostilité méchante, je dirais, ou agressivité, contre l'équipe adverse, d'ailleurs.
Encore qu'on l'a entendu souvent dans certains matchs de football, des sifflets, comme vous le savez, assez massifs.
C'est déjà arrivé, bien sûr. Mais là, parce qu'il y a autre chose derrière. Mais globalement, on ne peut pas dire que...
Non.
Ça, c'est, mis à part quelques exceptions de trop, mais on ne peut pas dire que ce soit de l'ordre de...
C'est pas belliqueux. Absolument.
Merci en tout cas pour votre appel, Chantal. Et nous sommes avec Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour. Bonjour André. Bonjour à vos invités. Eh bien écoutez, je partage en grande partie l'avis de l'auditrice précédente.
Oui.
De Corse. Par contre, je voudrais dire que pour moi, la nation, il faudra aller la chercher dans la rue. Elle n'existe plus. Macron va finir de la détruire et son gouvernement finiront par la détruire, du moins cherche à la détruire. Et vous verrez que d'ici un an ou deux, le phénomène va s'amplifier et les gens qui sont encore attachés, comme certains d'entre nous peuvent l'être, à la nation, aux valeurs de la nation, pas à la morale de la nation, aux valeurs de la nation, devront aller... la chercher dans la rue. Ça ne sera plus les gilets jaunes qui sont maintenant pour les trois quarts mélanchonistes à attendre que le SMIC augmente et la fin du mois facile et toutes les conneries qui vont avec. Mais par contre, j'entendais le premier auditeur qui parlait d'Allemagne, d'Espagne, mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas l'Allemagne et l'Espagne le problème dans notre pays, ou l'Italie. Ou ne sais-je encore, le problème dans notre pays, c'est l'Algérie, c'est le Maroc, c'est la Tunisie. À un moment donné, il faut arrêter de dire des choses pour ne rien dire. Voilà, tant qu'on ne s'attaquera pas au vrai problème, tant qu'on n'imposera pas les valeurs de la nation à tout un chacun, d'où qu'il vienne, il n'y aura plus de nation. Regardez, on a de moins en moins de liberté. L'égalité, il n'y en a plus. Et la fraternité n'existe plus depuis longtemps dans notre pays. Voilà, vous avez le triptyque qui n'est plus.
Oui. Jean-Paul, vous dites que ça va se passer dans la rue. Enfin, vous pensez que ça arrive de se passer dans la rue.
Ça se passera dans la rue. Il y aura de grandes manifestations. Parce que, avec ce deuxième quinquennat, je pense que nous allons vraiment nous apercevoir du dessein de Macron pour la France. Voilà.
Écoutez,
voilà
encore un avis. On a de temps en temps effectivement des auditeurs qui réagissent comme Jean-Paul. Quand je dis de temps en temps, assez régulièrement, qui sont un peu qui regardent ça en disant on n'évitera pas, non peut-être pas d'aller dans le mur, mais qu'il faudra une réaction. Quelle sera-t-elle? Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Bourdin?
Non, j'entends bien la. Le fond d'inquiétude et même de pessimisme de l'auditeur. Le propos est peut-être excessif, je ne sais pas, mais c'est possible, je ne sais pas, là, je ne suis pas devin.
Oui, personne ne sait. C'est-à-dire, en même temps, ça traduit quelque chose qui est une véritable inquiétude.
Mais ça révèle une véritable inquiétude. Et l'inquiétude, il faut la prendre très au sérieux, d'abord, et puis une inquiétude qui est nourrie par nos responsables de gouvernement, qui sont, c'est vrai, très anxiogènes, je comprends, et qui donnent l'impression de sous-estimer l'importance du problème. Et ça, c'est exact. Et effectivement, la personnalité de Macron ne donne pas l'impression de porter la question de la nation d'une manière très explicite, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est-à-dire qu'effectivement, moi je vois en dehors, encore une fois, de tout quand il va en Algérie, au moment de la campagne présidentielle de 2016 ou 2017, où il dit « la colonisation est un crime contre l'humanité », c'est vrai que les mots pèsent, on oublie ça, les mots, c'est pas, faut que je dirais ça, c'est important. Et c'est étonnant qu'il lance ça comme ça, puis qu'il dise un truc sur la culture française, puis qu'il dise, au contraire, les harkis, c'est très bien, pour se rattraper, etc., etc. Si vous voulez, il y a une dilution de la parole politique qui est quand même assez dangereuse sur le plan de la nation, je dirais.
Absolument. Non, absolument, parce qu'il a... Ça révèle une personnalité, mais au-delà de sa seule personnalité de politique, qui n'ont plus la connaissance historique de leur pays, en réalité. Eux-mêmes sont hors sol. Alors, donc, ils font des coups, et de temps en temps, quand ils voient qu'ils ont été un peu loin, hop, ils rééquilibrent les choses un peu autrement, mais on ne voit pas du tout, du même coup, la cohérence, et où va-t-on, quoi.
Hein – Manque de connaissance de l'histoire, manque de la culture.
– Et y compris dans le rapport avec l'Algérie, d'ailleurs, c'est un jeu dangereux, parce que jamais l'Algérie ne fera la même chose que ce qu'a fait la France sur le rapport… les rapports mémoriels, enfin, on le sait très bien. Et puis, la colonisation comme crime contre l'humanité, ça n'a aucun fondement juridique.
Oui, en
même en termes de droit. Symboliquement parlant, c'est catastrophique. Et juridiquement parlant, ça n'a pas de fondement.
Oui, c'est pas très, très intelligent, ça.
Et sans lien aucun, évidemment, avec une problématique de souveraineté, le siège social en France de McKinsey est en train d'être perquisitionné pour une enquête sur fraude fiscale. Et vous continuez à nous appeler sur 0826-300-300.
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et dans le fief originel de Sud Radio, l'Occitanie, nous sommes avec Dust qui nous appelle. Bonjour Dust.
Oui, bonjour Dust.
Bonjour André, bonjour Monsieur Bourdin. Voilà, vous avez parlé d'immigration, et de certains auditeurs aussi. Alors, sachant quand même qu'elle est souvent provoquée par le pillage des ressources naturelles de certains pays, je voudrais savoir, et aussi de la politique étrangère que certains pays ont en faveur de certains dictateurs pour assurer ce pillage, je voudrais savoir, à votre avis, quelle est la solution qu'on pourrait appliquer pour arriver à faire nation, justement, avec ces gens qui viennent désespérés.
Ah, ça, c'est une question absolument fondamentale, en effet. Alors, premier point, on ne peut pas accueillir tout le monde, de toute façon. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, il faut avoir une politique de l'immigration, à ce moment-là. Et ne pas être dans une générosité irresponsable. C'est tout, il faut l'admettre, c'est clair et net. Et d'ailleurs, même les gouvernements précédents, malgré tout, bon an, mal an, l'admettent. Hein. Deuxième point, une fois qu'on a accueilli des immigrés, qu'on les appelle migrants ou réfugiés économiques, politiques, enfin peu importe, qu'ils viennent de l'extérieur, il ne faut surtout pas en faire, comme je le disais je crois tout à l'heure, de simples titulaires de droit, mais en faire des nationaux à ce moment-là. En sorte que ces gens...
Et beaucoup d'immigrés ne demandent qu'à devenir des nationaux.
Je pense qu'il y a que ça, au nom même de leur dignité, d'ailleurs, absolument. C'est-à-dire qu'il n'est pas le corps en France et la tête ailleurs, et ça veut dire donc la maîtrise de la langue, qui est fondamentale. Mais ça ne suffit pas, parce qu'une langue, on peut s'en servir que de manière purement fonctionnelle. On communique, comme on dit, c'est tout. Mais derrière, encore une fois, c'est une culture, et c'est... j'insiste beaucoup là-dessus, une nation, c'est une communauté dans l'histoire, c'est-à-dire ils s'associent à la même communauté de destin historique, point final. Donc il faut qu'on leur enseigne l'histoire de ce pays. Sinon, ils n'en sauront rien, ils n'ont aucune mémoire. Et donc nous sommes à ce moment-là dans une société archipélisée où les gens, en réalité, cohabitent, mais ne coexistent pas. Une nation, il n'y a pas de coexistence, mais il y a la pure cohabitation. Comment voulez-vous que ça donne une nation au sens strict du terme? C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Et comme vous le dites vous-même, M. Berkov, c'est vrai que Beaucoup d'étrangers, en réalité, je pense, ne demandent pas mieux. Et de les réduire à n'être que des titulaires de droits pour dire, profiter de la sécurité sociale ou toutes sortes d'avantages sociaux, au fond, c'est très humiliant. On n'en fait pas des citoyens, des nationaux.
Mais plus que c'est humiliant, je trouve que de la part des dirigeants, ou en tout cas de tous ceux qui contribuent à ça, y compris au niveau de l'éducation, etc., c'est une, là aussi, c'est une paresse crasse et une facilité, sans parler de l'électoralisme. Moi, je vais vous dire, il y a des milliers et des millions de gens, vous savez, je raconte toujours ça quand on parle d'immigration. Je rappelle que l'Express, l'hebdomadaire L'Express, et l'hebdomadaire Le Point, étaient, dans les années 70, et j'ai témoigné, j'y étais à ce moment-là, et pendant 10 ans, qui réécrivait les journalistes de L'Express et Du Point, c'était deux Égyptiens. C'était des Égyptiens qui connaissaient la France et la langue française, pas la France, et qui étaient amoureux de la langue française, dont ils avaient fait leur patrie. Et il n'y a pas que des Égyptiens, vous savez très bien, des Sud-Américains, des Syriens, des Libanais, d'un peu partout, des Africains. Moi, je trouve que là, on a une responsabilité, il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Il y avait un amour de la langue française et de la civilisation et des valeurs de la France qui a été complètement oublié.
Absolument.
Et qui touchait des dizaines et des centaines de milliers de gens.
Absolument.
Qui étaient eux-mêmes, il ne s'agit pas, ils étaient toujours égyptiens, ils étaient toujours africains, ils étaient toujours... Enfin, je veux dire, il n'y a pas à renier son origine, mais ils avaient intégré, assimilé... ce qu'était la civilisation française.
Mais quelquefois, ils sont eux-mêmes des donneurs d'exemples de patriotisme. D'ailleurs, et ce qui me frappe dans ce que vous dites, très, très justement, quand on pense que la nation française a intégré Belmondo, Lévinas, Goscinny, ce juif polonais qui est l'auteur de la quintessence même de la France par Astérix...
Exact.
Max Gallo, et j'en oublie plus récemment qu'on a panthéonisé Jeanne Becker.
Joséphine Becker.
Joséphine Becker, pardon. C'est absolument considérable le nombre de personnalités devenues françaises et qui ont marqué l'histoire du pays. Donc, ce qui prouve bien que ce n'est pas le repli sur soi. Et le modèle républicain était une formidable machine
un
creuset de particularisation de l'universel. Mais aujourd'hui, à la place, vous avez Mohamed Merah ou Koulibaly. C'est pas pareil, on a baissé le niveau. Donc, l'image que l'on donne de l'étranger est une image absolument déplorable. Et parce que nous-mêmes, nous avons aussi une image déplorable du pays. En fait, on est dans un cercle vicieux. Et il faut retrouver ce cercle vertueux de cette nation qui est un creuset. Et ce n'est pas une utopie, puisqu'on a réussi, on l'a fait. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on en serait plus capable ?
Il n'y a pas de raison de ne pas le refaire, mais il y faut de la volonté.
Voilà.
Il y faut,
c'est un choix politique, en réalité. C'est une question de volonté politique.
Et un appel d'une belle région de notre nation, Olivier, qui nous appelle de Dordogne. Bonjour, Olivier.
Bonjour, Olivier.
Bonjour, messieurs. Je vais être rapide. Tout à l'heure, vous aviez parlé de justement les nations contre, on va dire, les mondialistes, enfin les peuples. C'est David contre Goliath.
Oui.
Mais ce sont nos dirigeants. La plupart sont élus. Donc, vous voyez qu'il y a un souci, qu'on n'a plus du tout la main sur le politique, et que le politique et donc les chefs d'entreprise sont contre les peuples.
Sont contre les peuples, vous dites, c'est ça ?
Tout à fait. Quand votre autre invité faisait la liste...
Sur Davos. Mmh.
On a bien compris, on a compris depuis longtemps. Mmh. Donc, les histoires de démocratie et tout ça, non, il y a des dirigeants qui ont un projet mondialiste contre les peuples et qui imposent les choses aux peuples. Après, pour les élections, on s'arrange comme on peut pour faire passer la pilule. Mmh. Mais voilà. Mais parce que je voudrais juste... Bruno Le Maire, quand on lui a demandé, pour l'inflation et tout ça, le coût de la guerre en Irak, et que ça allait coûter cher aux Français, il a dit oui. Mais il faut se rendre compte que nous rentrons dans un monde nouveau.
Oui.
Vous vous rendez
compte ? Non, mais je sais. J'entends ce que vous dites. Enfin, vous avez vu, d'ailleurs, Bruno Le Maire est toujours ministre de l'économie, donc vous voyez, tout va bien. Non, je plaisante.
Il a ce dogme de mondialisme contre les peuples, vous voyez.
Ouais. Alors justement, nous arrivons au terme de notre émission, encore une fois, avec cet excellent livre « La nation, une ressource d'avenir ». Bernard Bourdin, au fond, voilà, la nation, au fond, c'est qui est contre qui. Vous voyez encore, Olivier, ce que nous disait Olivier. C'est-à-dire qu'il y a une impression aussi qui se dégage chez les gens. Vous savez, ils disent, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On baisse les bras, d'accord, vous dites qu'il faut refaire la nation, etc. Mais on a l'impression que ceux qui devraient nous engager à refaire la nation ne sont pas à leur poste et ne tiennent pas ce cap-là, si tant est qu'ils aient un gouvernail dans les mains.
Oui, absolument. Encore une fois, c'est ce que j'appelle, et c'est ce que vient d'illustrer Olivier d'ailleurs. Nos démocraties, derrière, c'est pas que la nation qui est malade, c'est nos démocraties du même coup.
Ouais.
Parce qu'une démocratie qui n'a pas de sol, elle se condamne à n'être que purement procéduraliste, en gros. Hein, elle n'a pas d'affection sociétatis, elle ne relie pas les personnes entre elles. Et ça s'exprime par un divorce et une opposition farouche, de fait, entre un élitisme hors sol, ce qu'on appelle en anglais les anywhere, enfin c'est le fameux vocabulaire de David Goulhart, les anywhere, et de l'autre les somewhere. Donc il y a le haut et le bas. Il y a toujours besoin d'élite.
Non, bien sûr.
C'est pas d'être anti-élitiste, mais à condition que l'élite se relie au peuple. Et l'erreur, mais qui est intéressée sans doute, c'est de condamner les populismes sans s'interroger pourquoi le populisme existe. C'est-à-dire, en fait, c'est un élitisme.
Et pourquoi il prospère.
Il prospère, mais il prospère sur un élitisme malséant, je dirais, qui a un profond mépris, effectivement, pour les gens d'en bas, et donc qui alimente ce qu'il dénonce ensuite.
Exactement.
Or, la nation est le creuset, par définition, fédérateur du haut et du bas.
Voilà.
Et c'est ça, à mon avis, la clé là, au plan social.
La nation fédératrice du haut et du bas. Eh bien, écoutez, espérons. Aragon disait que la femme est l'avenir de l'homme. En tout cas, la nation est l'avenir de tous.
Et votre livre est publié chez Arthège et coécrit avec Philippe Diry-Barne. Et puis, est-ce que Brigitte Lay n'a pas la meilleure solution pour refaire nation? Vous l'écoutez jusqu'à 16h.